Si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que nous sommes arrivés à la fin du livre d'Esdras. Livre qui nous a parlé du retour de la déportation des Juifs de Juda, de Jérusalem. Retour avec d'abord Zorobabel, puis avec le scribe Esdras. Et notre habitude, c'est de parcourir des livres de la Bible, verset par verset, ou au moins chapitre par chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le livre, dans la Bible juive, dans la Torah, ou la Bible des Juifs, et aussi la Septante, qui est la Bible, l'Ancien Testament traduit en grec à Alexandrie pour les Juifs qui parlaient le grec, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie ne font qu'un. On parlait du premier livre d'Esdras, du deuxième livre d'Esdras. Et donc j'ai pensé qu'on allait continuer directement avec le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, historiquement ou chronologiquement, en fait, il est entre le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, s'insère la période décrite dans le livre d'Esther, mais on va faire comme la Bible juive, on va continuer, et comme nos Bibles, on va continuer avec le livre de Néhémie, qui suit donc le livre d'Esdras. C'est un petit livre, relativement petit, par rapport à certains livres de l'Ancien Testament que nous avons étudiés, comme le livre du prophète Ésaïe, 66 chapitres. Nous allons voir en fait que ce livre, comme toute la parole de Dieu, il est très riche. Il peut être lu à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr le récit historique des faits, qui est quelque chose de très intéressant, mais encore une fois, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pas seulement notre instruction, nos connaissances académiques, historiques, mais aussi pour nous instruire dans la vie spirituelle. Nous allons voir qu'il y a des leçons spirituelles formidables dans ce livre de Néhémie. Et le livre de Néhémie, nous allons voir, c'est le livre qui décrit la reconstruction du mur qui protégeait, de l'enceinte qui protégeait Jérusalem, pardon. Et on va voir qu'en fait, il y a dans ce livre des principes de gestion, des principes de management qui sont très intéressants, même d'un point de vue IAE, gestion d'entreprise. Il y a des principes solides qui sont à retenir et à mettre en pratique. Alors vous direz peut-être, mais moi je suis pas manager, j'ai pas d'entreprise à gérer, j'ai pas d'église dont je m'occupe ou d'association dont je m'occupe. Si vous appartenez à une de ces groupes, sachez que vous allez voir des principes très riches et très importants à retenir et à mettre en pratique. Mais quelque part, nous sommes tous responsables de quelqu'un d'autre. Que ce soit les mamans qui s'occupent de leur famille, de leurs enfants, de leur mari. Que ce soit vous qui vous occupez de vos amis, à moins d'être vraiment perdu sur une île déserte, nous avons tous des relations à gérer avec les autres. Nous avons tous des projets que nous voulons mener à bien. Et nous allons voir qu'il y a des principes formidables à retirer de ces 13 chapitres de ce livre que nous allons entamer aujourd'hui. On l'a répété souvent en début d'étude du livre d'Esdras. Le royaume d'Israël, qui avait été uni par David et Salomon et qui était à l'apogée de sa puissance, son influence, s'était divisé. 10 tribus d'Israël au nord, 10 tribus du sud de Juda, 2 tribus au sud de Juda, qui, elles, avaient été aussi, les deux avaient été déportées. Celle du nord, en 722, par les Assyriens. Celle du Sud en 586, en fait, il y avait eu trois épisodes, mais ça s'était terminé par la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone des deux tribus de Jérusalem qui avaient été déportées à Babylone. Pour un temps qui devait durer 70 ans. 70 ans qui correspondaient aux 70 années de sabbat que les Juifs n'avaient pas donné à leur terre. Et la puissance de Babylone, comme tous les royaumes du monde, n'avait pas duré. Et les Perses, aidés par les Mèdes, l'empire médo-persique, avaient pris le pouvoir et étaient devenus la première nation du monde. Et ces Perses étaient beaucoup moins durs avec les Juifs que ne l'avaient été les Babyloniens. Ils les avaient laissés s'installer, prospérer. Et Dieu avait même utilisé un de leurs dirigeants, l'empereur Cyrus, pour leur permettre de revenir à Jérusalem. Et donc il y a eu un premier retour en 538 avant Jésus-Christ, et ça c'est les six premiers chapitres du livre d'Esdras, où sous la conduite du gouverneur Zorobabel, ils sont retournés à Jérusalem et ont commencé à poser les fondations du temple. Il a fallu ensuite attendre 15 ans parce que les Samaritains, ceux qui occupaient le territoire, avaient mis de l'opposition. Il avait fallu un retour à la parole de Dieu avec les prophètes Agée et Zacharie pour que le travail de reconstruction du temple ne soit achevé. Ça, c'était la première partie du livre d'Esdras. Et ensuite, c'est bien beau de rebâtir les bâtiments, mais il est encore plus important de rebâtir le peuple. Et c'était le rôle qu'avait assumé Esdras dans le reste du livre, chapitre 7 à 10, en 458 avant Jésus-Christ, donc un intervalle où ce scribe qui enseignait la parole, qui la mettait en pratique et qui la proclamait, était venu rebâtir en quelque sorte, reconstruire le peuple. Réformer le peuple. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, les hommes étant ce qu'ils font, lorsque les choses paraissent être stables, que la sécurité est assurée, que, entre guillemets, tout va bien, alors on se relâche et le péché nous prend facilement dans ses filets et nous retombons dans l'incrédulité, nous retombons dans le péché, dans l'idolâtrie. Et nous avons vu que c'était le cri du cœur d'Esdras de voir que les mêmes conséquences allaient produire les mêmes effets. L'idolâtrie, se trouver des faux dieux, des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne correspondent pas à la vérité divine, ont tendance à nous éloigner, à nous conduire loin de Dieu dans le malheur. Et là, nous allons lire ensemble ce premier chapitre de Néhémie. Je vous invite à vous y tourner dans la Bible à la colombe qu'on vous a peut-être passée, c'est page 486. Premier chapitre de Néhémie, je lis, si vous pouvez suivre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnai. Je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardes tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Voyons là dans ce chapitre comment Néhémie va réagir à des mauvaises nouvelles. Il va y avoir d'abord, dans les premiers trois premiers versets, on a le rapport sur ce qui se passe à Jérusalem. Ensuite, on voit la réaction de Néhémie. Et puis on voit la requête de Néhémie. La réaction, c'est ce verset 4, où nous voyons comment il est affecté par ces mauvaises nouvelles. Et puis le reste du chapitre, c'est une requête, c'est une prière. Nous le croyons, nous le disons, la prière, c'est la plus grande force au monde. C'est le tout de le dire intellectuellement, ce qui compte, c'est vraiment de la pratiquer. Nous avons quelques opportunités de prière qui sont offertes par l'Église, et force est de constater que nous sommes un tout petit nombre. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne priez pas, mais le danger, c'est qu'on soit convaincu que la prière, c'est la chose essentielle, mais qu'on lui donne la dernière place. Et je peux vous en parler franchement, parce que bien souvent, c'est mon attitude, c'est ma réaction. Pour bien faire, j'aime passer une heure le matin à lire la parole, à prier. Essayer de prier avec ma femme aussi, à Nancy, c'est très important. Mais si j'ai un agenda chargé, si j'ai des tas de choses à faire, je vais avoir tendance à faire que ces minutes qui devraient être vraiment le temps le plus important de la journée, je les expédie rapidement. Parce que c'est pas le tout de prier, il faut agir, j'ai rendez-vous, j'ai des choses à mettre en place, des travaux à finir, des rapports à écrire, du courrier à envoyer, des personnes à visiter dans la journée. Et peut-être que c'est la même chose dans votre vie. La prière a-t-elle la place qu'elle devrait avoir ? Et le Seigneur me reprend lorsque j'ai passé du temps, je suis prêt à commencer la journée. Et Nancy me demande, est-ce que, si on n'a pas prié déjà, est-ce que tu veux prier? Et ma réaction, ça va, elle n'est pas là, c'est de dire, oui, mais alors rapidement. Autrement dit, c'était plus dans mes plans de passer du temps dans la prière. Et comme vous le savez, et comme on va le voir dans ce livre, on va voir qu'entre le début du chapitre 1 et le début du chapitre 2, où Néhémie commence vraiment à passer à l'action, il va passer 4 mois dans la prière. 4 mois pour remettre dans la prière ce projet que Dieu lui met sur le cœur. Et on pourrait dire, mais si c'est Dieu qui m'a dit de faire quelque chose à ce moment-là, je fonce, j'ai plus besoin de passer du temps devant lui. Eh bien là, ce livre nous montre que non, même si Dieu a mis ce projet sur nos cœurs, nous devons lui demander d'intervenir, lui demander de nous montrer comment gérer le projet, et on va voir encore une fois toute l'idée de la gestion, comment faire, comment m'en remettre à lui. Et ce projet qui, depuis près de 150 ans que les Juifs ont reçu cette autorisation de repartir, comment ce projet de sécuriser Jérusalem, de refaire de Jérusalem une ville forte, qui est la ville où se trouve le temple à l'époque, c'est la voie de louange, d'adoration, de communion avec Dieu. Ce projet qu'ils n'ont pas réussi à faire, parce qu'il va être précédé de 120 ou plus jours de prière, cet incroyable projet, il va être réalisé en seulement 52 jours. Et ça, c'est un exemple qui nous montre la puissance de la prière. On peut prier pendant des mois, on a l'impression de perdre du temps, mais si nous sommes en synchronisation avec la volonté de Dieu, à ce moment-là, il peut agir rapidement. Un autre exemple plus contemporain, ça nous a été donné par un très très bon ami, pasteur en Allemagne, un Américain, Nick Long. Il était parti en 86, si j'ai bonne mémoire, à Ziegen. Il avait eu l'occasion de faire des voyages d'évangélisation. Et il avait, en Allemagne, il y a encore des cours d'instruction religieuse. Je crois que la morale du genre arrive aussi. Mais il y avait encore à l'époque, et peut-être toujours aujourd'hui, la possibilité d'aller dans les lycées, les collèges, pendant les cours d'instruction religieuse et de présenter l'évangile. Il avait eu l'occasion de faire ça. Au début, nous pouvions aller à Don Bosco présenter l'évangile, et c'est encore sans doute possible aujourd'hui, on le fait moins, mais on ne l'a pas fait depuis un moment. Mais il avait réalisé qu'en fait, il y avait toute une génération de jeunes Allemands qui avaient soif de Dieu. Et une fois qu'il avait fini son voyage, il repartait aux États-Unis, et le Seigneur lui avait vraiment mis un fardeau pour les jeunes Allemands. Et il priait pour que quelqu'un aille comme missionnaire en Allemagne. Et puis bien sûr, c'est une prière très dangereuse lorsque vous priez pour que Dieu envoie quelqu'un d'autre que vous. Au bout d'un moment, il vous dit, et toi, tu y as pensé? Toi qui as ce fardeau? Comme là, nous avons rapidement lu que Néhémie était complètement bouleversé. Il était dans la tristesse, il s'impliquait, il aimait ces gens, il ne voulait pas voir le nom de Dieu bafoué ainsi. Et Nick, après quelques temps de résistance, a fini par partir à Ziegen. Et notre pasteur Wayne, qui viendra au mois de juin, était tout heureux de voir qu'il avait ce fardeau d'aller commencer l'implantation d'une église, de faire quelque chose avec les jeunes en Allemagne. Et il était très impatient d'avoir des rapports, des nouvelles. Et notre ami Nick, pour une raison personnelle, dans la prière, il avait senti que le Seigneur lui disait « Ne faites rien que prier pendant 6 mois. » Et Nick aurait pu commencer tout de suite une étude biblique avec quelques amis qu'ils avaient rencontrés dans les parcs. C'était un bon musicien, il avait des jeunes qui faisaient de la musique avec lui. Il aurait pu commencer quelque chose tout de suite. Mais il avait cette conviction que le Seigneur voulait qu'il passe avec ses équipiers, qu'il passe vraiment du temps dans la prière. C'est ce qu'ils ont fait au grand émoi de notre pasteur qui se disait « Mais attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Il disait « Ben, on sent qu'on doit prier, jeûner et ne faire que ça pendant 6 mois. On a trouvé un bel endroit, il y a un parc au sommet de la ville, il y a un vieux château et il y a un parc qui domine la ville. Et là, on va prier de très bonne heure le matin, on passe des heures dans la prière, prier pour que l'Esprit Saint touche cette ville et les jeunes qui sont dans cette ville. » Et notre pasteur est enragé. Il disait « Non, c'est pas possible. Ça, je comprends, il faut prier, mais commencer quelque chose. » Et Dieu merci, Nick ne s'est pas laissé influencer par cette vision des choses que voulait lui imposer notre pasteur, au risque de s'aliéner la volonté de les soutenir et d'envoyer du monde, de prier pour eux. Et ça a été le secret, en fait, j'en suis convaincu, le secret de ce qui s'est passé à Ziegen. Et à Ziegen, il s'est produit un réveil parmi les jeunes. Il y a eu des tas de miracles qui se sont passés. Le résultat, ça a été l'implantation d'une église d'un millier de personnes qui est toujours aussi vivante aujourd'hui, qui maintenant a été passée à des responsables, des jeunes responsables allemands. Tous les jeunes de cette époque que Nick avait rencontrés dans la rue sont maintenant pasteurs, administrateurs, responsables dans l'église. Et cette église a eu un rayonnement dans toute la région jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, Nick serait le premier à dire que c'est pas parce qu'il est un brillant gestionnaire ou un brillant intellectuel. Il plaisantait même parce qu'il avait même pas il avait tout juste le certificat d'études, il avait pas l'équivalent du bac. Et il était là à enseigner la Bible à des gens qui avaient des doctorats, des études très longues. Les jeunes Allemands sont généralement très instruits et bien instruits. Mais c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et nous avons tendance à vouloir utiliser les armes du monde, faire de la pub, faire des méthodes humaines de publicité, de marketing, de bâtiment, de qualité, etc. Toutes ces choses sont pas mauvaises en elles, mais est-ce que la priorité, c'est dans la prière ? Et encore une fois, c'est souvent dans les moments de prière que le Seigneur nous a bénis. Vous savez tous maintenant, j'imagine, l'histoire du premier grand don qui a fait qu'on a pu s'engager dans l'achat de ces bâtiments. C'était au bout d'un jour de jeûne que le Seigneur a répondu à nos prières par un don qui nous est tombé du ciel suite à la décision de chercher la volonté du Seigneur. Et je ne peux pas m'encourager davantage à être fidèle dans la prière que lorsque on étudie encore une fois ce passage de Néhémie. Tout le travail qui va être accompli, il a sa source ici, il a son secret dans la dépendance vis-à-vis de Dieu pour accomplir son œuvre. Et c'est veillé, c'est aussi des moments où on peut, c'est pas organisé, les responsables qui se sont mis à l'organiser un peu par la force des choses. Plusieurs d'entre eux sont catholiques, mais ils ne veulent pas qu'il y ait de prières prononcées. Ils lisent des textes laïques d'auteurs français et étrangers sur la liberté, sur la famille, des beaux textes. Il y a quelques chants aussi, ce n'est pas des cantiques. Mais tout ça, ça permet aussi la prière. Il y a des moments de silence où nous pouvons prier, nous accorder dans la prière. La prière, c'est comme le vent de l'esprit qui attise le feu du réveil. Quelques années, il y avait une campagne d'évangélisation avec l'évangéliste argentin qui vit aux États-Unis, Luis Palao. C'était en l'an 2000. Et parmi les éléments de cette campagne, il y avait notamment une campagne de prière où les chrétiens de la ville étaient encouragés à faire une liste de quelques personnes pour lesquelles ils pouvaient prier pour qu'ils viennent à la campagne et qu'ils soient touchés par le message et viennent au Seigneur. Et donc il y avait dans la ville vraiment un mouvement de prière. Les gens priaient pour leurs amis, pour leurs parents, pour leurs collègues. Et j'avais été bouleversé. Je me souviens, je parlais des fois au restaurant avec des non-chrétiens, et c'était des gens à côté qui me demandaient, excusez-moi à la fin du repas, mais j'ai pas pu m'empêcher d'écouter vos conversations et j'aimerais en savoir plus. Est-ce qu'on pourrait prendre le café ensemble? Des choses absolument inimaginables. Pourquoi? Parce que la ville était baignée dans la prière. Et vous avez tous fait du camping. Vous avez tous été autour de feux de camp. Et vous savez que quand on fait un bon feu pour faire des chamallows ou des saucisses, quoi, souvent le lendemain matin, lorsque on se réveille, le feu a l'air mort. Mais il suffit de souffler un peu sur les braises qui sont couvertes de la suie grise des briquettes ou du bois, et le feu peut repartir de plus belle. C'est bien pour le petit-déj. Et ça, c'est la même chose pour la vie du croyant, la vie spirituelle du croyant. La prière, c'est un peu comme l'Esprit Saint qui vient souffler et qui peut faire repartir le feu du zèle pour Dieu, le feu de l'action pour Dieu. Le rapport, pour revenir au rapport à la réaction et à la requête, le rapport, c'est que cet homme, dont on ne sait pas grand-chose, son nom veut dire « l'Éternel encourage ». Et l'Éternel est toujours prêt à nous encourager. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons une fâcheuse tendance à tomber dans le découragement. C'est l'arme favorite de l'ennemi. C'est pour ça que dans sa prière de Jean 17, Jésus priait au Père pour qu'il nous donne la joie du Fils. La joie, c'est un peu les flammes, c'est la gaieté, c'est quelque chose qui nous fait terriblement défaut lorsque nous nous laissons démoraliser par l'ennemi qui nous dit « vous ne servez à rien, vous pouvez manifester tant que vous voulez ». L'immoralité et répond, les gens ne croient pas en Dieu, vous êtes une poignée de luberlu, il n'y a plus d'espoir. Vous feriez aussi bien d'abandonner tout de suite plutôt que de mener un combat d'arrière-garde qui ne sert à rien. Et cet homme, Néhémie, dont le nom encore veut dire que le Seigneur veut vous encourager. Le Seigneur encourage. Jéhovah est un encourageur. Il était le fils de Hakalia, on ne sait pas qui c'était ça non plus. Mais on sait par le dernier verset qu'il était les chansons du roi. Les chansons, c'était a priori un poste d'esclave. C'était simplement de goûter ce que le souverain, le roi, buvait. À l'époque, c'était facile de mettre un peu de poison dans les aliments ou les boissons du roi. Et donc, et ça s'est poursuivi dans l'histoire de France aussi, il y avait encore des gens qui faisaient ça, goûter les mets du roi. Le roi, avant de goûter un bon Bordeaux, il en donnait un demi-verre à son esclave et lui demandait de le boire. Et il regardait si l'homme commençait tout de suite à baver et à avoir de la mousse blanche sur les lèvres. Il voyait si. Et donc c'était un poste très dangereux, mais c'était devenu aussi un poste de proximité avec le souverain. Si vous goûtiez sa nourriture matin, midi et soir, vous commenciez à établir une relation, et souvent c'était devenu un poste de confiance. Vous vouliez être sûr que le gars allait bien manger devant vous ce qu'il était supposé tester, et c'était devenu un genre de rôle d'écuyer ou de. Aujourd'hui, on parlerait de secrétaire. Il y a des fois des secrétaires de l'Élysée qui sont plus influents que le Premier ministre parce qu'ils ont la parole, l'écoute du roi. Et donc c'était un homme a priori qui était né en exil, qui n'avait jamais connu Jérusalem et qui avait été choisi par le roi, on ne sait pas sur quel critère, mais sans doute qu'il devait bien faire son travail parce qu'il était toujours les chansons du roi. Et ça, c'est toujours un encouragement à quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le du mieux que vous pouvez, comme si c'était pour le Seigneur. C'est un enseignement du Nouveau Testament, mais là, on voit aussi que Néhémie était un homme sur lequel le souverain pouvait compter. Il avait une place d'influence incroyable par rapport à ses origines et le fait même qu'il était juif. Et il a la 20e année du règne de ce roi. On pense que c'était le règne du roi Artaxerxès dont il sera question au début du chapitre 2. Un roi qui a régné 40 ans, mais là, au milieu de son règne, il se trouve que cet homme a des nouvelles fraîches, plus ou moins fraîches, parce que ça prenait du temps encore, le voyage, de Jérusalem. Il veut savoir comment ça se passe. Et il est question d'Anani, l'un de ses frères, ça pourrait être au sens de vraiment d'un frère de sang. On parle de lui dans le livre, premier livre des Chroniques, comme un descendant ou quelqu'un qui était dans la lignée de David. On n'est pas sûr que ce soit le même homme. Mais toujours est-il que les nouvelles du verset 3 sont terribles. Les rescapés, ceux qui sont revenus d'exil, les rescapés, les restés de la captivité, sont au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Dans Esdras 4, on voit que quand ils ont essayé de reconstruire le mur, après avoir travaillé sur les fondations du temple, ils étaient toujours attaqués par les Samaritains et différentes personnes, il en sera question aussi dans ce livre de Néhémie. Et finalement, les murailles n'étaient pas reconstruites, les portes qui assuraient bien sûr l'entrée dans la ville forte étaient brûlées par le feu. Et on sent que toute la population là-bas était découragée, n'y croyait plus. Et c'était terrible pour une ville que ne pas avoir de fortifications. Ça voulait dire que n'importe quel groupe de maraudeurs, n'importe quel groupe d'ennemis pouvait arriver, faire des raids, voler, piller, incendier, emmener des otages, emmener des personnes en captivité, sans qu'il y ait vraiment une défense qui puisse s'organiser, qui soit... La ville n'était plus du tout une ville en sécurité. Et ça, c'est toujours un problème, même aujourd'hui. On a les quartiers chauds des villes. À Nice, il y a les Moulins, il y a l'Ariane. Et on met plus des murailles de sécurité, on met des compagnies républicaines de sécurité. Et je sais que pour ceux qui vivent à l'Ariane ou qui font partie de ce ministère, c'est rassurant de savoir qu'il y a une caserne de CRS juste là. C'était l'équivalent des murailles. Mais ça allait plus loin, parce que dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, les murailles sont comparées au salut et les portes à la louange. C'est un peu comme dire que les compagnies républicaines de sécurité, c'est le salut, et que les portes, ça serait l'équivalent des quarts de CRS, c'est la louange. Intéressant, c'est chapitre 60, verset 18. Vous pourrez dire ça à vos amis CRS. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes, celui de louange. Entre parenthèses, il y a des forces de sécurité qui veillent sur la manifestation. Il y a des personnages plus ou moins visiblement, mais depuis, on est devenu un peu amis avec le responsable des renseignements généraux qui assistent aux veillées. Donc si vous avez peur de vous faire tabasser, sachez que c'est toujours un risque, bien sûr, mais il y a normalement de la protection, il y a le salut et il y a la louange. Et donc pour Néhémie savoir qu'il n'y avait plus de sécurité, que la ville était livrée au bon gré des événements, des malfaiteurs, c'était un sentiment d'un profond déshonneur, d'une profonde tristesse. Ça, c'est aussi un principe de gestion. Quand vous occupez d'autres personnes, est-ce que vous vous souciez vraiment de ces personnes? Est-ce que vous avez à cœur leur bien-être? Que vous soyez missionnaire, que vous soyez pasteur, que vous soyez maman, que vous soyez professeur, que vous soyez homme politique, que vous soyez président, est-ce que vos fonctions sont une façon d'assumer vos ambitions personnelles, d'arriver dans la vie, d'avoir des beaux appartements, dans des hôtels particuliers payés par l'État? Ou est-ce que vous avez vraiment à cœur le bien-être profond des gens? Là, on voit que Néhémie, c'était un vrai leader, c'était un vrai responsable, parce qu'il avait ce souci. Le malheur de ses concitoyens qui étaient retournés à Jérusalem, ça lui procurait une terrible tristesse, au point de pleurer. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Est-ce que nous avons cette compassion pour les personnes que nous servons, que ce soit les personnes que nous enseignons, les personnes que nous dirigeons, les personnes que nous servions même en tant que commerçants? Est-ce que les personnes que nous voyons dans la rue, on se dit, est-ce que ces personnes connaissent Dieu? Tous ces gens qui s'amusent sur la plage, toutes ces personnes qui font du sport, qui ont l'air en pleine forme sur la promenade des Anglais, qui ont l'air souriant et pleines de vie, pleines de joie, quel est leur destin éternel? Est-ce que ça me concerne? Ou si je me dis, j'aimerais pouvoir avoir leur ligne, être bronzé comme eux, et les envier au lieu de prier pour eux? C'est la réaction. Après le rapport, la réaction de Néhémie. Et puis là, il va passer 4 mois à prier. Et il s'adresse d'abord, la prière, il y a un petit acrostiche. Un acrostiche, c'est un mot composé des initiales de différents mots qui composent un programme. En anglais, ça marche mieux qu'en français, mais c'est le mot « act » pour dire « adoration », « confession ». « T », c'est pour « thanksgiving ». On pourra trouver un équivalent en français. Et puis « S », c'est pour « supplication ». Et là, en fait, on voit qu'il suit à peu près ce modèle. D'abord, il se rappelle à qui il s'adresse. Il va dans l'adoration. C'est pour ça que nous commençons nos cultes par un temps de louange. C'est pas pour permettre à des musiciens qui ont du talent de montrer tout leur talent. C'est pour nous permettre d'arriver dans l'adoration en la présence de Dieu. De nous permettre d'oublier ce qui préoccupe nos esprits, nos soucis, nos attentes, et d'entrer vraiment en la présence de Dieu. Et encore une fois, on remercie tous ceux qui participent à la louange, parce que votre rôle, il est aussi essentiel que d'enseigner la parole. Vous nous amenez dans la présence de Dieu, et je ne vais pas vous citer, mais nous vous apprécions beaucoup, que ce soit de façon régulière, de façon ponctuelle, quand il y a un besoin, c'est un rôle essentiel. C'est vraiment un des fondements de notre façon de voir les choses. L'adoration par le chant, par la prière aussi, par la dîme aussi, c'est une autre façon d'adorer. Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. On va voir qu'en fait, pour bien prier, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut prier les promesses de Dieu. Et c'est ce que ce que Néhémie fait dans le reste du chapitre, pardon. Il fait allusion aux promesses de Dieu. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exercer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Après l'adoration, la confession des péchés. Le fait de voir la beauté, la toute-puissance, l'amour de Dieu, ça me conduit à voir mon péché. Si je me compare à mes contemporains qui vivent dans l'immoralité, qui s'en vantent, qui en font étalage, je peux me sentir tout à fait juste et bon et moral, etc. Mais le standard, ça ne doit pas être les autres pécheurs, ça doit être Dieu. Jésus, c'est notre modèle. La sanctification qu'accomplit l'Esprit Saint, c'est de nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Et lorsque je vois Jésus, sa perfection, lui qui me dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », je me dis « Oh là là, c'est pas possible, j'en suis absolument incapable ». Et là, je peux commencer à confesser mes péchés, demander pardon à Dieu pour mes péchés. Encore une fois, c'est tellement important de comprendre que ce soit vraiment votre attitude devant Dieu. Nous avons tous péché, nous allons continuer à pécher de ce côté de l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous complaire dans le péché et nous dire « bon, ben, puisque c'est comme ça, à quoi bon lutter ?» Jean nous disait, 1er épître de Jean, verset 5 du chapitre 1, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il y a un enseignement, un faux enseignement qui circule dans certaines églises évangéliques qui vous dit que si vous êtes vraiment chrétien, vous n'allez plus pécher du tout. Alors je vous rassure, c'est faux et la Bible nous le dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, nous nous trompons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Ces personnes, il suffit de leur dire que leur parler de ce passage, ils vont se mettre en colère et vous leur direz, voyez, tu as de la colère en toi, tu as du péché encore en toi. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Verset clé pour comprendre l'importance de la confession des péchés. Et nous allons prendre la Sainte Cène aujourd'hui, nous allons passer un temps où nous allons pouvoir confesser nos péchés, reconnaître avec Dieu que nous tombons dans des actes, des pensées qui lui sont déplaisantes. Vous avez vu comment il s'identifie? Alors, c'est pas une grandeur d'âme, mais c'est, en fait, même le plus saint d'entre nous peut s'identifier avec le péché des plus pécheurs parmi nous. Parce que donner les mêmes conditions, donner les mêmes tentations, donner les mêmes faiblesses, nous sommes tous capables des pires péchés. Je suis en train de lire la biographie de Dietrich Bonhoeffer, ce prêtre allemand qui s'est opposé à l'hitlérisme et qui a été martyrisé. Et on voit que même les gens qui avaient un arrière-plan chrétien étaient capables, par peur, par pression des autres, par préservation de leurs propres intérêts, étaient capables de faire des choses terribles. Et là, il dit, il s'inclut, moi et ma famille, nous avons péché, verset 7, nous avons vraiment mal agi envers toi, nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Ça, c'est tous les aspects de la loi, des 10 commandements, mais aussi les différentes prescriptions, les différentes conseils, exhortations qui nous sont données dans la parole. Et puis, il fait appel à la parole. Il rappelle à Dieu ses promesses. C'est pas comme si Dieu avait besoin qu'on lui rappelle ses promesses, mais c'est pour nous fortifier, nous encourager. On lui dit de se souvenir de ses promesses parce que ça nous permet de nous les rappeler, de nous rappeler sa fidélité. Et là, c'était les passages. Encore une fois, Néhémie connaissait bien la parole. Il cite de mémoire des paroles du Deutéronome, notamment le chapitre 30, les premiers 5 versets. Et l'idée, c'est que à l'époque, si nous observons ta loi, alors à ce moment-là, tu peux nous bénir. Si nous désobéissons, tu nous punis, tu nous châties en nous disséminant parmi les peuples. Et puis la promesse que si vous revenez à moi et à mes commandements, que vous les mettez en pratique, alors à ce moment-là, je vous rassemblerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Et puis, il le rappelle encore une fois, Seigneur, ce sont tes serviteurs, ton peuple, que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Il fait allusion à l'Exode, au fait que Dieu a ramené les Juifs de la captivité. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et de tous ceux qui veulent craindre ton nom. Donne-moi ou prospère-moi, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur du roi. Et c'est ce que nous allons voir au chapitre 2. Mais vous voyez comment il y a d'abord cette adoration, cette confession, ces remerciements pour toutes ces promesses et cette supplication. Donne-moi la faveur du roi pour que je puisse accomplir ce que tu as mis sur mon cœur. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà reçu, vous avez un sentiment que Dieu vous appelle à faire quelque chose. C'est peut-être encore nébuleux pour certains, peut-être que pour d'autres, c'est de continuer là où vous êtes, dans votre job, dans votre famille, d'être des Néhémies. Mais encore une fois, nous voyons que la force la plus puissante, c'est pas le TNT, c'est la prière. C'est pas la bombe atomique, c'est la prière, parce qu'elle met en branle la puissance de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce rappel de ce qu'est la prière et comment tu veux que nous y ayons recours en priorité, pas comme en dernier ressort, Seigneur. Pardonne-nous pour les fois où nous oublions de prier, Seigneur. C'est quand nous avons tout essayé que nous venons à la prière. Continue ton œuvre parmi nous, Seigneur. Tu vois les projets que tu as mis sur nos cœurs, je pense projets de différents missionnaires parmi nous qui veulent servir, d'autres qui ont à cœur de voir l'implantation d'églises, d'autres qui veulent continuer le travail dans les quartiers difficiles pour amener des jeunes de confessions différentes, Seigneur, à la vérité. Ceux qui travaillent sur ce projet de pépinière, toutes ces choses, Seigneur, tu vois combien la prière est vitale. Merci de ce que cette sainte scène que nous allons célébrer, c'est Jésus qui l'a instituée pour nous rappeler que il y a une deuxième alliance, une alliance supérieure à la première à laquelle Néhémie fait référence, celle à laquelle Néhémie fait référence. Tu nous dis que c'est toi qui fais tout, Seigneur. C'est toi qui t'offres en sacrifice et tout ce que tu nous demandes, c'est de reconnaître ce sacrifice par la foi et de venir pour en être au bénéfice, Seigneur. Voyons comment Néhémie n'avait pas toute la révélation de ce que nous avons aujourd'hui, Seigneur. Il comptait sur la prière quand même pour faire accomplir ta volonté, Seigneur. Il savait que c'était toi qui pouvais susciter l'obéissance aux lois. Seigneur, nous avons le bénéfice de la croix, nous avons le bénéfice de la révélation complète dans la parole, Seigneur, pour voir que tu t'es offert un sacrifice. Seigneur, je te prie maintenant de nous aider dans ce temps de rappel par la célébration de la Sainte-Cène. Amen.